Le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'Église de France face à la vérité des viols d'enfants. Combien sont-ils depuis les années 50? Combien de victimes et combien de pédophiles en habit noir? La commission sur la pédocriminalité dans l'Église rendra son rapport très attendu demain. L'institution s'apprête à vaciller après 20 ans de scandales répétés. On va le voir dans un instant. Bernard Tapie, héros de Marseille, où seront célébrés ses obsèques en fin de semaine. Il laisse une autre image à Saint-Étienne, par exemple, où l'on se souvient de l'épisode Manu France. La cause animale, s'en emparer, est indispensable désormais pour faire campagne. Emmanuel Macron attendu dans un refuge aujourd'hui. Et dans ce studio, c'est une candidate à la présidentielle qui est attendue tout à l'heure.
Oui, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, à notre micro avec Léa dans une grosse vingtaine de minutes. Vos appels, vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000.
Pandora Papers, la nouvelle enquête sur l'évasion fiscale et les paradis qu'il abrite. On s'intéressera au cas Tony Blair. Attention au virus de l'automne. Les tout-petits n'y sont plus habitués. Ça se ressent déjà dans les services hospitaliers. Et puis une histoire des arts martiaux, des estampes médiévales à Dragon Ball Z. C'est à voir au musée du Quai Branly à Paris.
France Inter.
Les membres de la commission ont eux-mêmes eu besoin d'un soutien psychologique pour encaisser ce qu'ils ont entendu. Des témoignages de victimes de prêtres ou de religieux catholiques. 2 ans et demi d'enquête sur la pédocriminalité dans l'Église et un rapport qui sera remis demain à la conférence des évêques de France. Ce sera une déflagration, prévient déjà un membre de cette commission indépendante. 2900 à 3200 prédateurs ont été recensés sur une période de 70 ans. Et combien de victimes, on le saura demain. L'Église face à la vérité, Rémi Brancato, c'est l'aboutissement d'un processus qui aura mis 20 ans à émerger à force de scandales.
Le premier électrochoc pour l'Église de France, c'est en 2001 la condamnation d'un de ses évêques, Pierre Piquant, pour n'avoir pas dénoncé les actes pédocriminels d'un prêtre de son diocèse à Bayeux. Une première brochure pour lutter contre la pédophilie est distribuée aux prêtres, aux éducateurs. En 2016, l'Église est à nouveau secouée avec la création à Lyon de la Parole Libérée, association de victimes du père Bernard Prénat, condamné en 2020. L'Église met en place une cellule de lutte contre la pédophilie, une commission nationale d'expertise, insuffisant pour les victimes qui obtiennent d'être entendues le 3 novembre 2018.
Quand les évêques de France accueillent à Lourdes des victimes de pédophilie, c'était une première.
Ce jour-là, Olivier Savignac, abusé à l'âge de 13 ans par un prêtre, livre son récit.
Il y a eu tellement de libération de parole que l'on ne peut plus nier tout ce qui se passe.
Alors après cette assemblée, les évêques demandent une commission indépendante, cette fois 3 ans de travail plus tard. Ces conclusions seront un séisme pour Olivier Savignac, aujourd'hui président de l'association Parler et Revivre.
Ça va officiellement spécialiser les choses, ça s'est pas passé sur quelques centaines d'enfants, mais sur des milliers, voire des dizaines de milliers d'enfants. Ce qui est important, c'est que ce rapport montre aussi les mécanismes qui font que la hiérarchie n'a rien fait. Ces prêts-là qui ont laissé perpétrer des crimes de masse.
Le rapport formulera des préconisations. L'Église a déjà promis une contribution financière pour les victimes.
Et ce rapport sera examiné à la loupe au Vatican, où le pape François porte une attention particulière au fléau de la pédocriminalité dans l'Église. Bruce de Galzin, il sait que les révélations françaises vont faire l'effet d'une bombe.
Le pape est prévenu. Il a même reçu une note écrite et en main propre vendredi dernier du président des évêques de France. François sait donc que le rapport est sévère et que les évêques de France sont prêts à recevoir le choc de cette sévérité, explique Monseigneur de Moulin-Beaufort qui se dit horrifié par les chiffres. « C'est votre croix », lui a dit le pape. Et c'est aussi la lumière, lui a répondu le président des évêques, la lumière comme vérité enfin dévoilée. Les évêques de France en ont beaucoup parlé avec le numéro 2 du Vatican, avec les dicastères, les ministères concernés, comme la commission spécifique qui s'occupe de ces abus sexuels. Mais face à la déferlante mondiale, il y a un engorgement des cas au Vatican. Rome voit donc d'un très bon œil la volonté des évêques de France de créer un tribunal pénal national, mais qu'il faut maintenant concrétiser. Dans l'immédiat, le pape pourrait prendre la parole lors de l'audience générale mercredi pour s'adresser aux victimes françaises. Il y a 3 ans, après le rapport sur les abus sexuels au Chili, François avait dit sa honte face à l'échec des autorités ecclésiastiques pour affronter ces crimes ignobles. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Voilà une épreuve de vérité pour l'Église, un moment rude et grave. La lettre qu'ont déjà reçue les prêtres et les paroisses en France en parlait dès hier pour préparer l'institution et les fidèles lors des messes du dimanche.
Lui était croyant, 8h06. Les obsèques de Bernard Tapie seront célébrées vendredi à Marseille en la cathédrale de la Major.
Mais que laisse-t-il derrière lui? L'image d'un homme toujours prêt au combat contre le Front National, contre les tribunaux, les journalistes, la maladie. Une victoire victoire éclatante, celle de l'OM en Coupe d'Europe, qui fait la gloire de Marseille depuis presque 30 ans, et c'est là-bas qu'il sera enterré au cimetière de Mazargues. Mais dans le sillage de Bernard Tapie aussi, beaucoup de condamnations et de désillusions. Ainsi, l'emblématique Manu France, ancien fleuron de l'industrie des pistolets, des fusils et des vélos, qui périclite à Saint-Étienne quand Bernard Tapie propose ses services en 1980, attendu comme le messie pour redresser la barre, sans succès, Mathieu Lemeur.
On est en juillet 1980, Bernard Tapie répond à une interview d'Antenne 2. Les actionnaires de Manu France viennent de refuser son plan de sauvetage.
On demandait aux actionnaires de mettre de l'argent, on demandait au syndicat d'accepter la filialisation et on demandait à la municipalité d'admettre que c'est pas forcément en demandant de l'argent au pouvoir public qu'on arrive à redresser une affaire.
Bernard Tapie a essayé pendant plusieurs mois de séduire les syndicats stéphanois. Ancien ouvrier de Manu France, Douglas Mézières confiait son souvenir de l'homme d'affaires dans un reportage de France 3 à la fin des années 90.
Il se présentait comme quelqu'un de très social, qui avait créé une équipe de foot, qu'il jouait au foot avec ses salariés. Quand il allait jouer au foot avec ses salariés, il prenait sa Rolls. Et quand il allait discuter avec ses banquiers, il prenait sa Renault. Voilà.
Pour venir à Saint-Étienne, Bernard Tapie utilise un jet privé, circule sur le cours Foriel en Mercedes. Pas de quoi charmer Saint-Étienne à l'époque. En tout cas, pas l'ancien maire Joseph Sangdols.
Il est resté 8 jours dans le couloir de la mairie. J'ai refusé de le recevoir parce que je savais que c'était un arnaqueur. Il venait pour profiter de la situation où se trouvait Manu France pour récupérer les biens et puis repartir ailleurs. C'est ce qu'il a fait.
Les derniers ateliers Manu France ferment en 1983 et en 86, Bernard Tapie quitte Saint-Étienne et se tourne vers Marseille, la ville qui a fait sa fortune.
Mathieu Lemeur, France Bleu, Saint-Étienne-Loire. Et c'est donc à Marseille que Bernard Tapie laissera un souvenir impérissable. Jeudi, là-bas, une chapelle ardente ouvrira au public au stade Vélodrome où des supporters ont déjà défilé toute la journée d'hier pour lui rendre hommage. Et comme si le voulait marquer le coup, le département des Bouches-du-Rhône va connaître la pluie battante aujourd'hui, placée en vigilance rouge par Météo France. 5 autres départements sont en vigilance orange. Il s'agit du Vaucluse, des Alpes de Haute-Provence, du Var, des Alpes-Maritimes et de la Haute-Corse. Adieu le masque pour les écoliers de 47 départements. Ils vont pouvoir entrer en classe visage nu, ce qu'ils n'ont pas fait depuis presque un an, sur fond de recul de l'épidémie. 19 malades admis en réanimation ces dernières 24 heures contre 35 il y a une semaine. Mais attention, pour les plus petits, les pédiatres s'inquiètent de cas de bronchiolite, d'asthme et de gastro. En ce moment, ils arrivent plus tôt et plus fort et font redouter un hiver difficile avec des urgences pédiatriques débordées. Véronique Julia, ce pourrait être un effet post-Covid.
Le professeur Christelle Gralegouen préside la Société française de pédiatrie. Elle dirige également le service de pédiatrie générale du CHU de Nantes. D'habitude, les infections virales arrivent plutôt mi-novembre. Elles surchargent les services jusqu'à la mi-janvier. Mais en ce début d'octobre cette année, ces urgences sont déjà sous tension avec 30% de malades en plus.
Sur cette période de l'année, habituellement, on voit passer environ 90 enfants par jour aux urgences. Et la nuit dernière, on en a reçu 125. Des crises d'asthme, beaucoup, des bronchiolites et puis aussi des gastro-entérites.
Cette reprise intense et précoce des infections, le médecin l'attribue notamment au relâchement des gestes barrières. L'épidémie commence tôt, favorisée par le fait que l'entourage des enfants porte moins le masque. Mais il y a aussi et surtout sans doute un effet de rattrapage. L'an dernier, hors Covid, il y a eu très peu d'infections virales. Avec toutes les précautions qu'on a prises, les très petits enfants ont très peu rencontré les virus. Ils sont restés à l'abri et n'ont pas produit d'anticorps.
On a un phénomène de dette immunitaire. Ces enfants sont naïfs de toute infection virale. Une de nos inquiétudes, c'est que ça puisse constituer une réserve d'enfants non immunisés qui va affluer.
Rien n'est sûr évidemment à ce stade et il se peut tout aussi bien que ce ne soit qu'une simple alerte, un chiffre toutefois pour mesurer l'ampleur que pourrait avoir l'éventuel rebond des infections hors Covid. En un an et demi en France, 500 000 enfants n'ont pas fait la varicelle qu'ils auraient dû faire en temps normal.
Véronique Julia.
Il est 8h10, paradis fiscaux, Florence, la boîte de Pandore est toujours bien ouverte.
Et on y trouve des milliers de milliards de dollars qui échappent à l'impôt partout dans le monde. Ce sont les nouvelles révélations du consortium international des journalistes d'investigation avec France Inter via la cellule investigation de Radio France. Les Pandora Papers ou les documents épluchés de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore que l'on retrouve dans les paradis fiscaux. L'enquête a permis de remonter à plus de 300 responsables politiques, dont une trentaine d'anciens ou d'actuels dirigeants. Tony Blair, par exemple, l'ancien premier ministre britannique qui échappa à plusieurs centaines de milliers d'euros d'impôts grâce à un montage financier peu orthodoxe, Jacques Monin.
Ce qui frappe dans cette affaire, c'est le décalage qu'il y a entre le discours et la pratique. Dès 1994, Tony Blair dénonçait en effet les abuseurs fiscaux qui ne paient rien, ou presque, je cite, alors que d'autres paient plus que leur part. Et puis, il y a quelques jours encore, sa fondation invitait les décideurs politiques à augmenter les taxes sur l'immobilier. Sauf que dans les Pandora Papers, eh bien, on se rend compte que le couple Blair, pour acquérir une propriété londonienne 9 millions de dollars et y domicilier le cabinet d'avocats de l'épouse Blair Cherry, eh bien le couple a eu recours à un montage assez inhabituel. Plutôt que d'acheter la demeure et son terrain, tout simplement, il a racheté la société basée aux îles Vierges britanniques qui possédait la bâtisse. Cela leur a permis du coup d'éviter de payer 400 000 euros de taxes foncières. En réponse à nos questions, Cherry Blair, elle, a expliqué que son mari n'était impliqué en rien dans cette transaction et qu'elle se conformerait au régime fiscal du Royaume-Uni.
Et parmi les personnalités épinglées par les Pandora Papers, on trouve aussi Dominique Strauss-Kahn, le Premier ministre tchèque, dont on a parlé dans le Zoom de France Inter tout à l'heure, le roi de Jordanie, le président kényan, la chanteuse Shakira, ou l'ancien mannequin Claudia Schiffer, qui possèdent tous des comptes offshore. Le protocole nord-irlandais dans le viseur de Londres, ce dispositif douanier mis en place au moment du Brexit, le gouvernement britannique s'apprête à le suspendre. C'est le secrétaire d'État chargé du dossier qui devrait l'annoncer aujourd'hui. Ce protocole sape désormais l'accord de paix du Vendredi Saint, selon la Grande-Bretagne, qui cherche à le renégocier depuis des mois. Même les animaux, il faut s'y intéresser quand on fait campagne. Ce qu'Emmanuel Macron a bien compris, qui souhaite l'adoption d'une loi contre les maltraitances avant la fin du quinquennat, et qui visitera un refuge aujourd'hui, en cette journée mondiale des animaux. Il est attendu à Grès, en Haute-Saône. Le président, Maxence Lambrecq, ne veut pas laisser cette cause de plus en plus populaire à ses adversaires.
Cochez toutes les cases, n'en oubliez aucune. Saviez-vous que 0,02% du plan de relance était consacré à la cause animale? 20 millions d'euros pour aider, entre autres, à rénover 300 refuges. Emmanuel Macron sait bien qu'il n'a pas rempli toutes ses promesses de 2017, que les associations de défense des animaux jugent insuffisante la loi en cours de discussion. Elle prévoit l'interdiction de la vente de chiens et chats en animalerie, des sanctions plus lourdes en cas d'abandon, la fin des animaux sauvages dans les cirques itinérants, les delphinariums, mais rien sur l'élevage intensif, le broyage des poussins ou la chasse à cour. L'observatoire de l'association L214 donne à Emmanuel Macron la note de 2,5/20, mais l'image est tout aussi importante. Lui qui a adopté il y a 4 ans un labrador noir, Nemo, ne veut pas laisser sujet à celle qui a passé son diplôme d'éleveuse de chats.
Allez, viens, viens ma puce.
Marine Le Pen et ses chats.
Les animaux, nous les aimons.
Emmanuel Macron et son chien. Fou rire en pleine réunion à l'Élysée quand soudain Nemo urine contre une cheminée.
Ça arrive souvent ?
Non.
C'est la première fois que vous avez déclenché chez mon chien un comportement totalement inhabituel.
Les séquences qui font la joie des réseaux sociaux et rendent le politique plus proche, plus sympathique, l'idéal en campagne.
Maxence Lambrecq, y aurait-il un problème avec le nouveau DPE, le diagnostic de performance énergétique, censé évaluer si votre logement doit être rénové dans les années qui viennent? À peine entré en application au 1er juillet dernier, ce nouvel outil de détection des passoires thermiques est déjà suspendu. Décision annoncée il y a 10 jours pour cause d'anomalies qui pénalisent massivement les bâtiments construits avant 1975. Explication signée Claire Chaudière.
Le problème n'a pas mis longtemps à être identifié dès le début du mois de juillet, explique Thierry Marchand, diagnostiqueur en Bretagne. Sur les bâtiments construits avant 1975 et encore plus avant 1948, des critères comme la composition des murs ou les anciens systèmes de ventilation associés à de nouveaux coefficients de déperdition d'énergie majorée ont déclenché une avalanche de mauvaises notes injustifiées selon lui.
Des classifications qui sont complètement folles. 40% des bâtiments avant 75 sont tombés en passoire thermique, oui. Ah oui, c'est énorme.
La suspension de ce nouvel outil était donc indispensable, insiste Jean-Marc Torollion à la FNAIM. Mais la situation doit désormais être rapidement corrigée, dit-il, car tout un tas de questions juridiques et financières sont en suspens.
Pour la location, il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis susceptible d'avoir un logement classé G, il sera urgent que j'ai le nouveau DPE pour justifier à mon locataire que l'appartement que je vais louer ne sera pas indécent en 2025. L'autre enjeu, c'est que j'ai déposé un dossier pour avoir des aides à la rénovation. Si je dépose mon dossier avec un DPE qui n'est pas tout à fait juste, on pourrait me le reprocher à terme. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il faut aller vite.
Selon le gouvernement, après correction des 6 anomalies identifiées, une remise en route du nouveau diagnostic de performance énergétique devrait être possible dans un mois.
Les 80 000 bâtiments classés F ou G ces dernières semaines seront prochainement renotés, recalculés. C'est ce qu'indique le ministère du Logement et ça se fera de façon automatique. Enfin, sortez bâtons et munchaku et enfilez vos pantalons bouffants. Le musée du Quai Branly nous emmène de la Chine au Japon pour une histoire des arts martiaux, de leurs racines mythiques jusqu'à la pop culture. Ultime combat, c'est le nom de cette exposition. Amélie Perrier, on y croise Bruce Lee, Goldorak et d'autres.
C'est sur la musique des rappeurs du Wu-Tang Clan que l'on pénètre dans cette exposition où les estampes vieilles de plusieurs siècles se confrontent aux films de Kung-Fu, aux bâtons des moines Shaolin ou encore aux figurines de Dragon Ball Z dont on apprend qu'il est inspiré d'un récit mythologique chinois, le voyage vers l'ouest. Les arts martiaux sont aussi pétris de spiritualité et de médecine chinoise jusqu'à devenir culture populaire grâce au cinéma et à un certain Bruce Lee qui avait toute sa place au Quai Branly, nous explique Stéphane Duménildo, commissaire associé de l'exposition.
Il est sa propre œuvre d'art. Il a construit son corps, il a inventé son art martial qui est le Jeet Kune Do. Sa capacité à maîtriser l'espace, la vitesse et le mouvement, finalement, se propage à la mise en scène et c'est lui qui dirige le film.
Et il faut voir cette salle où un éventail de grands écrans s'anime au rythme des combats de Bruce Lee. La marraine de l'exposition, Clarissa Agbenienou, double médaillée d'or en judo au JO de Tokyo, le reconnaît. Cela fait partie de sa culture.
J'ai été bercée par que ça soit Bruce Lee, que ça soit Dragon Ball Z, j'ai Chevalier du Zodiac. C'est pas que théâtralisé, il y a une histoire derrière, il y a un peuple à sauver, ça va plus loin, il y a de la culture, il y a de l'esprit. Ils aiment aussi parler des énergies, c'est ça que j'aime beaucoup.
Une exposition pop et agile où les arts martiaux se glissent avec souplesse dans l'histoire des civilisations.
Ultime combat, c'est à découvrir jusqu'au 16 janvier au musée du Quai Branly.
Merci Florence Paracuellos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Marie-Pierre, toujours 6 départements du Sud-Est sous vigilance.
Oui, Nicolas, avec les Bouches-du-Rhône en vigilance rouge, pluie, inondation, orage, et reste en vigilance orange la Haute-Corse, le Var, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence, ainsi que le Vaucluse, car après les forts cumuls de pluie de la nuit, eh bien de fortes pluies et des orages éclateront encore ce matin de la Côte d'Azur à la Corse. Les pluies remonteront jusqu'au Lyonnais et l'Alsace. Ailleurs, les nuages sont nombreux ce matin, de la Manche à la façade atlantique. En revanche, de très belles éclaircies reviennent du nord au centre jusqu'aux Pyrénées, sous un mercure contrasté entre les 3 petits degrés à Lussac-le-Château dans la Vienne, 8 à Évreux, 10 à Paris, alors qu'il fait 22 à Porto Vecchio.
Et on attend, Marie-Pierre, de nouveaux orages dans le sud-est cet après-midi.
Et oui, car de l'air chaud continuera de remonter de la Méditerranée. Les orages seront intenses de la région PACA à la Corse. Ces pluies vont remonter vers l'Alsace, mais les éclaircies seront belles encore des Ardennes au bassin parisien aux Pyrénées, alors qu'on attend des averses et du vent des côtes de la Manche en descendant sur l'Aquitaine et dans la journée. Au plus bas, il fera 14 à Besançon, 15 à Lyon, 17 à Lille et Quimper. Vous aurez 18 à Paris, au Havre comme à Marseille, 19 à Bourges et Montpellier, 24 à Nice et 31 à Ajaccio.
Marie-Pierre Planchon, merci et à tout à l'heure. Il est 8h19.